Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de Nine Art Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre, publié en 1979. Entre le cristal et la fumée est un essai de biologie théorique et de philosophie des sciences dans lequel Henri Atlan examine les formes de l'organisation du vivant. Médecin, biologiste et philosophe, Atlan appartient aux penseurs qui ont contribué à installer les notions de complexité et d'auto-organisation au centre de la réflexion sur les organismes. Le titre désigne deux limites conceptuelles, le cristal figure un ordre fixe, régulier et répétitif. La fumée évoque la dispersion, l'aléa et l'instabilité. Pour Atlan, le vivant ne se réduit à aucun de ses pôles. Il se maintient, se transforme et produit des formes nouvelles dans leur intervalle. Le livre interroge ainsi la théorie de l'information, le bruit, l'entropie, le code génétique et les explications mécanistes de la biologie moléculaire. Il élargit ensuite cette enquête au psychisme, aux sociétés, à l'éthique et à la pensée juive. Son objectif n'est pas de fournir une théorie biologique simplifiée, mais de déplacer les cadres par lesquels on conçoit ordre, hasard, sens et organisation. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, le cristal et la fumée comme limite de l'ordre vivant, la métaphore centrale ne décrit pas deux substances particulières, mais deux modèles extrêmes d'organisation. Le cristal représente une structure très ordonnée, stable et prévisible, dont la répétition assure la permanence mais limite la nouveauté. La fumée représente au contraire la dissipation, la variabilité et la perte de forme. Un organisme vivant ne peut être assimilé entièrement ni à une structure figée, ni à une agitation sans cohérence. Il conserve des régularités, des mémoires et des contraintes, tout en restant capable de répondre à des perturbations et de modifier son fonctionnement. Cette position intermédiaire permet à Atlan de traiter la vie comme un processus plutôt que comme un objet clos. L'organisation n'est jamais donnée une fois pour toutes, elle doit être continuellement produite et maintenue. La métaphore évite aussi une opposition trop simple entre ordre et désordre. Un excès de régularité peut empêcher l'adaptation, tandis qu'une certaine variabilité fournit les conditions de l'apparition de formes inédites. Atlan propose donc de penser les systèmes vivants par leurs tensions internes, leurs échanges avec l'environnement et leur histoire. Cette image sert également à élargir la réflexion au psychisme et aux collectivités, où les formes stables coexistent avec l'invention, le conflit et l'incertitude. Deuxièmement, l'ordre par le bruit et la fonction créatrice des perturbations, un apport décisif de l'essai, réside dans le principe d'ordre par le bruit. Dans le sens classique de la théorie de l'information, le bruit désigne une perturbation qui dégrade la transmission d'un message. Atlan ne nie pas ce risque, mais montre que cette définition est insuffisante pour comprendre les systèmes vivants. Dans un système complexe possédant des interactions nombreuses, des erreurs ou variations peuvent aussi ouvrir des possibilités nouvelles. Elles rompent certaines répétitions, multiplient les réponses disponibles et peuvent favoriser une réorganisation plus adaptée à une situation imprévue. Le bruit n'est donc bénéfique ni partout ni automatiquement. Son effet dépend de la structure du système, de ses redondances et de sa capacité à intégrer une perturbation sans se désagréger. Cette précision distingue l'auto-organisation d'une célébration vague du chaos. Pour qu'une variation devienne productive, il faut des mécanismes de conservation, de sélection et de recomposition. Atlan attire ainsi l'attention sur une propriété importante du vivant, la robustesse, ne consiste pas seulement à résister au changement, mais à faire de certaines variations une ressource. La notion permet de penser ensemble stabilité et innovation, sans réduire la seconde à l'exécution d'un plan préétabli. Elle éclaire aussi pourquoi la complexité ne se confond pas avec la simple complication technique. Troisièmement, une critique du programme génétique et du réductionnisme moléculaire, Atlan conteste l'usage trop littéral des termes programme, code et information lorsqu'ils servent à expliquer le vivant par les seuls gènes. Sa critique ne consiste pas à nier le rôle de l'hérédité moléculaire, mais à refuser que le génome soit traité comme un plan souverain contenant à l'avance la totalité de la forme et du devenir d'un organisme. Les métaphores issues de l'informatique peuvent être utiles, mais elles risquent de masquer ce qu'elles présupposent un lecteur, un contexte, des interactions et des processus de réalisation. Or, les systèmes biologiques se développent dans des environnements internes et externes changeants, et leurs composants agissent de manière interdépendante. Une séquence ne prend de fonction que dans une organisation déjà active. Cette position conduit Atlan à mettre en cause les formulations linéaires et finalistes de la biologie moléculaire, notamment lorsque celle-ci donne l'impression que les propriétés du vivant découlent mécaniquement d'un message génétique. Il cherche plutôt à rendre compte de la formation des structures par des dynamiques de systèmes complexes, parfois éloignés de l'équilibre. Le livre demeure ainsi une intervention épistémologique, il interroge les limites des catégories scientifiques elles-mêmes, et non seulement les faits qu'elles servent à ordonner. Cette vigilance garde un intérêt face aux explications qui confondent une cause biologique identifiable avec une explication complète. Quatrièmement, information. signification et complexité au-delà du calcul des messages, la réflexion sur la théorie de l'information permet à Atlan de distinguer le calcul des signaux de la question du sens. Les modèles de transmission mesurent notamment l'incertitude ou la quantité d'informations associées à des messages possibles. Ils sont puissants pour analyser les communications techniques, mais ils ne suffisent pas à expliquer comment une information devient signifiante pour un organisme. Dans le vivant, un signal compte parce qu'il est reçu dans un réseau de fonctions, de mémoire, de régulation et de relations avec un milieu. Sa valeur ne se laisse donc pas isoler de l'organisation qui l'interprète. Cette réserve nourrit une conception exigeante de la complexité. Celle-ci ne renvoie pas simplement à un grand nombre d'éléments ou à un vocabulaire difficile. Elle désigne la difficulté de comprendre un système dont les niveaux d'organisation et les relations mutuelles ne peuvent être ramenés à une chaîne causale unique. Atlan propose ainsi une critique des analogies rapides entre organismes et machines informationnelles. Les organismes traitent des signaux, mais ils se transforment aussi en les traitant. Ils participent à la production de leurs propres conditions de fonctionnement. L'enjeu est alors de tenir ensemble rigueur scientifique et prudence interprétative, une mesure de l'information ne tranche pas, à elle seule, les questions relatives au sens, à la finalité apparente ou à la connaissance du vivant. En dernier lieu, du vivant biologique aux questions de psychisme, de culture et d'éthique, l'essai dépasse délibérément le cadre de la biologie cellulaire. Atlan rapproche les problèmes de l'auto-organisation de questions relatives au temps, au psychisme, aux sciences humaines et à la pensée juive. Ce déplacement ne vise pas à dissoudre les différences entre disciplines. Il met plutôt à l'épreuve la portée des concepts d'ordre, de hasard, de mémoire et de création lorsqu'ils passent d'un domaine à l'autre. Le psychisme et les sociétés présentent, comme les organismes, des formes de stabilité et de transformation, mais ils introduisent en outre des significations des récits, des normes et des conflits qui ne se réduisent pas à une description physico-chimique. Atlan invite donc à éviter deux simplifications opposées, biologiser directement les phénomènes humains, ou traiter les sciences de la nature comme étrangères aux interrogations éthiques et culturelles. La présence de références bibliques, mythologiques et talmudiques donne à l'ouvrage une orientation singulière dans le paysage de la philosophie des sciences françaises. Ces traditions ne sont pas mobilisées comme des preuves scientifiques concurrentes, mais comme des ressources pour interroger les limites de ce que les explications scientifiques permettent d'affirmer. Le livre pose ainsi une question durable. Comment articuler connaissance sur les mécanismes du vivant et responsabilité devant les significations humaines que nous leur attribuons. En conclusion, Entre le cristal et la fumée s'adresse en priorité au lecteur, déjà disposé à travailler un texte dense, étudiant et chercheur en biologie, philosophie des sciences, épistémologie, théorie des systèmes ou sciences humaines, mais aussi lecteur curieux des débats sur le déterminisme génétique. Il ne constitue pas une introduction simple à la biologie contemporaine. Son vocabulaire, ses détours interdisciplinaires et la technicité de certains développements demandent une lecture lente, parfois accompagnée de repères sur la thermodynamique et la théorie de l'information. Cet effort est compensé par un bénéfice intellectuel précis, apprendre à repérer les présupposés contenus dans des mots apparemment évidents, tels que programme, information, ordre ou hasard. Atlan montre que ces notions changent de sens selon les disciplines et qu'aucune ne peut, seule, épuiser la réalité du vivant. Par rapport aux ouvrages de vulgarisation qui opposent simplement gènes et environnement, ordre et chaos, ou science et philosophie, ce livre se distingue par son refus des alternatives commodes. Il relie une critique informée de la biologie réductionniste à une réflexion sur le sens, l'éthique et les traditions de pensée. Sa contribution majeure est de faire comprendre que l'auto-organisation n'est ni une formule magique, ni un abandon de la causalité, elle désigne le problème concret de système, capable de maintenir leur cohérence tout en intégrant de la variation. C'est un essai marquant pour qui cherche moins des réponses immédiates qu'un cadre plus rigoureux pour penser la complexité du vivant. Si vous souhaitez soutenir Henri Atlan, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.